Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, événement encore. Bret Easton Ellis, l'auteur d'American Psycho, est en France. Il nous a accordé un peu de temps. Pour cette même raison, pas de bibliothèque exceptionnellement cette semaine. Mais à la fin, on retrouvera l'équipe de chroniqueurs de l'émission pour la bande dessinée, les romans et la littérature jeunesse. Mais d'abord, donc, c'est l'invité et lequel nous partons à la rencontre de Bret Easton Ellis. On le connaît depuis moins que zéro, c'était en 1985. Premier roman, premier succès, il n'avait que 21 ans, une plongée dans les frasques décadentes de la jeunesse dorée des années 80 à Los Angeles, fête, drogue, oisiveté, etc. Il y a eu ensuite les lois de l'attraction sublime, et puis American Psycho en 91, roman dérangeant, incroyable, fascinant, avec l'adaptation au cinéma, et Christian Bale dans le rôle du Golden Boy tête-à-claque et psychopathe Patrick Bateman. Il revient avec un nouveau roman, Les Éclats, chez Robert Laffont, The Shards en anglais, je ne sais pas si je le prononce bien. Il y a assez peu d'immenses stars en littérature de nos jours, et tant mieux, puisque ça rend les écrivains beaucoup plus accessibles quand même. Mais il y a, cela dit, quelques monstres sacrés vivants. Il y a Modiano, il y a Stephen King, et il y a Bret Easton Ellis. C'est pour ça que je ne fais pas trop le malin, mais je suis un professionnel, donc je vais y arriver. Bonjour Bret Easton Ellis.
Hello, hi.
Merci de me recevoir et j'espère que vous n'êtes pas trop intimidé. Surtout, il ne faut pas l'être. Je suis très différent de l'image qu'on me donne et du mythe.
All made up, all lies.
Je dis ça, mais en fait, je vous ai déjà interviewé pour White, votre dernier livre qui n'était pas un roman, et pour cause, vous aviez dit que le roman pour vous c'était terminé. Et ça m'avait rendu très très triste, mais vous y revenez. Ouf! Mais alors pourquoi? Et est-ce que finalement le roman n'est pas si mort que ça?
The novel, I think, is always dying to some degree or another. Sometimes it seems more dead than other times.
Le roman est toujours plus ou moins en train de mourir, parfois plus, parfois on voit que ça réémerge. Mais les gens lisent moins de fiction littéraire. Je connais aujourd'hui des gens qui sont dans la trentaine qui n'ont jamais lu de roman. Et j'ai lu récemment un article dans le New Yorker qui explique que les gens à l'université qui étudient la littérature anglaise, et bien que ce sujet-là a baissé de 50%. Les gens ne veulent plus étudier la littérature. Alors évidemment, il y a quelques succès littéraires qui perdurent, mais de manière générale, le genre de roman que moi j'écris, que mes amis écrivaient dans les années 80, 90, au début des années 2000, ça paraît être plus ou moins fini. Donc le roman, il n'est pas tout à fait mort, mais il n'est plus du tout au centre de la culture.
I don't want the novel to be dead. I love the novel. I read novels.
Je veux pas que le roman soit mort. Je lis de la littérature, j'en écris, c'est dire, j'y crois. Donc bon, c'est pas bon pour mon business, mais c'est comme ça.
It does not give me any gratification.
Et d'ailleurs, dans le roman, à un moment, il y a un quartier à Los Angeles qui a 6 librairies dans une rue. Et en fait, vous expliquez tout de suite que maintenant, il n'y en a plus aucune là-bas. Mais alors, pourquoi vous y revenez?
Forget the 5 or 6 bookshops in Westwood
Alors,
Village.
Ne parlons pas de ces 5 ou 6 librairies, effectivement, dont je parle. Aujourd'hui, à Los Angeles, c'est simple. Il n'y a plus du tout de librairie. Il y en a une Booksoup. Si vous allez à Los Angeles, il faut absolument aller là-bas. C'est absolument super. Mais sinon, autant dire qu'il n'y a absolument rien à des kilomètres à la ronde, à part éventuellement un Barnes & Noble, la chaîne. Il doit y en avoir une, effectivement, mais c'est à des kilomètres de là où j'habite. Aujourd'hui, c'est simple, les gens vont sur Amazon pour acheter leurs livres. Alors évidemment, moi, ça me manque, cette expérience de la librairie où on sillonne les rayons, on trouve un livre, on le touche, peut-être qu'on le sent. Cette expérience sensuelle, elle me manque. Mais bon, je dois bien reconnaître et admettre qu'aujourd'hui, je peux trouver en ligne des livres que je n'aurais jamais pensé trouver. Et je les reçois le lendemain par la poste. Donc ça ne me fait pas plaisir du tout de voir cette évolution, mais je suis bien obligée de reconnaître la réalité d'aujourd'hui.
I can't help it. I can't help it. I didn't think I was going to write this book. I thought of this book 40 years ago when I was 18 years old. I thought I was going to write that book then. And I never did. I never felt
alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce roman? Ben, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça faisait 40 ans que j'avais commencé ce roman. Je l'avais commencé à l'âge de 18 ans, mais j'avais jamais réussi à le ressentir. J'ai vraiment besoin d'une connexion, d'une émotion très forte pour pouvoir écrire le roman. Et il m'a fallu littéralement des décennies pour y revenir. Et ça m'est tombé dessus très soudainement. En avril 2020, d'un coup, les émotions sont remontées. Énormément de nostalgie pour ce monde perdu des années 80, ces amis que j'avais à l'époque, les horreurs qui ont eu lieu à cette époque-là, mon comportement, la destruction de relations, les trahisons, j'étais vraiment un petit peu dans tous les sens à cet âge-là. Et d'un coup, à 56 ans, ça m'a parlé. Et d'ailleurs, si plus tôt dans la semaine on m'avait demandé « Alors, ton roman, tu vas enfin l'écrire ?» J'aurais dit « Enfin non, absolument pas ». Et pourtant, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ça y est, j'étais déjà en train d'écrire le premier chapitre. Donc voilà, les émotions sont venues et il fallait absolument que je mette les choses sur la page.
Et vous dites même que vous devez tomber amoureux de votre roman pour l'écrire. Alors les éclats, The Shards, c'est l'histoire d'un certain Brett au tout début des années 80, un gosse de riche qui traîne avec les autres gosses de riche du côté de Sherman Oaks. C'est lui qui raconte, ça commence d'ailleurs avec la visite de Brett chez sa petite amie pour admirer son nouveau cheval. Comme c'est chic, c'est la dernière année de lycée, c'est-à-dire que les curseurs sont poussés à fond, les hormones sont à leur paroxysme, et voilà que débarque un nouveau à l'école, Robert Mallory. Parallèlement, on entend parler d'un tueur sanguinaire surnommé le Trawler, le chalutier en français, à cause de ses méthodes d'assassinat. Vous lirez pour savoir pourquoi on l'appelle comme ça. Mais quelle est cette fascination américaine pour les serial killers, parce qu'on pense aussi à des types comme Charles Manson.
Well, of course, because well, Charles Manson, exactly. I was talking to Quentin Tarantino the other day.
Je parlais à Tarantino l'autre jour. Il a lu Les Éclats. Il a adoré et il me disait, c'est génial, enfin un livre sans putain de portable. Et effectivement, alors je lui ai dit, c'est quand même pas pour ça que j'ai écrit le roman, mais de fait, on a à peu près le même âge et à Los Angeles. À l'époque, on a tous grandi avec les meurtres de Manson, avec ces cultes, ces sectes, et c'était terrifiant. Donc c'était vraiment là, partout, omniprésent. Et donc on avait cette sensation de peur qui était là, qui était présente. Et il faut aussi savoir quand même que Los Angeles, c'est la capitale des serial killers. En Californie, il y avait à l'époque 5, 6, 7 serial killers en opération, si j'ose dire. Et c'est sans doute lié aussi au fait que Los Angeles est une ville très étendue. Or, à l'époque, on n'utilisait pas l'ADN, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de téléphone, et donc ces tueurs en série s'en sortaient et pouvaient continuer. Et puis, il faut aussi savoir qu'il y avait les nouvelles qui en parlaient en permanence, et donc c'est la raison pour laquelle je reviens à l'histoire du serial killer. Et évidemment, dans Les Éclats, mon tueur en série est la combinaison de plusieurs choses, et évidemment, j'ai exagéré.
Turned up a notch or two.
Les amis, je suis intervieweur littéraire depuis longtemps maintenant. J'interviewe un écrivain chaque semaine. Mais là, je suis quand même avec Bret Easton Ellis qui me dit des trucs du genre « Quand je parlais à Quentin Tarantino la semaine dernière, il me disait que bah, j'adore. » Et on se retrouve dans un instant pour continuer à en parler.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre. Nicolas Caro.
La Voix est libre continue. Nous sommes avec Bret Easton Ellis, les amis. Vous êtes avec moi pour parler de son nouveau roman Les Éclats chez Robert Laffont. L'histoire de Brett, dernière année, c'est la terminale dans la jeunesse dorée du côté de Hollywood, Beverly Hills, etc. Or, un nouveau arrive, il s'appelle Robert Mallory, un peu comme dans le Grand Maulne. Augustin Maulne, il est un peu intrigant, il a une forme de fascination, il dégage une forme de fascination comme ça. Et Brett finit par se demander si Mallory n'aurait pas à voir avec ce tueur en série dont on parle. Il commence à le suivre dans une forme de paranoïa étrange. On ne sait pas qui est le plus fou des deux. Et d'ailleurs, ça fait un peu penser à American Psycho. Il y a une théorie qui court qui dit qu'en fait, Patrick Bateman, le héros d'American Psycho, n'est pas un tueur. Ou plutôt, qu'il ne commet pas vraiment ses crimes dans la réalité. Il ne fait que les imaginer. C'est déjà beaucoup, mais c'est moins grave. Mais il y a l'idée quand même, Brett Easton Ellis, dans vos romans et dans ce dernier, que finalement, nos pensées sont plus délirantes que la réalité, plus banales. Nous créons nos propres monstres, mais dans nos têtes.
Yes, but I also think it's fairly straightforward, and I think Patrick Bateman's story is fairly straightforward. You open a book.
Oui, mais en fait, c'est assez simple. Dans le cas de Patrick Bateman, on ouvre le roman et c'est sa réalité à lui. Donc, on peut avoir affaire à un personnage ou un narrateur en qui on ne peut pas avoir confiance. On peut être confronté à la folie, mais peu importe, ça reste quand même la vérité de la personne dont on parle. Alors, certaines personnes disent de mes romans qu'ils sont ambigus. D'autres trouvent que c'est extrêmement puissant. Moi, je dois dire que j'aime énormément cette ambiguïté. Dès lors que j'ai affaire à un personnage ou un narrateur qui est fou, qui est obsédé, en qui on ne peut pas avoir confiance, alors je suis transportée 10 fois plus que si j'étais confrontée à quelqu'un de parfaitement normal. Donc, moi, je pense que les lecteurs qui ont déjà lu Les Éclats ont déjà compris la résolution. Ils recollent les morceaux. Et ils comprennent où on veut en venir. Et pour en revenir à American Psycho, si on en parle autant aujourd'hui encore, c'est précisément parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il l'a fait ? Est-ce que c'était dans sa tête ? Et je pense que si j'avais répondu à cette question à l'époque où j'ai écrit le roman, ben on n'en parlerait plus aujourd'hui. Donc je suis très attirée par cette idée d'ambiguïté. Et il faut aussi voir la question de l'obsession. Brett est obsédé par Robert Mallory. Et obsédé au point qu'il en perd la raison, il en perd sa capacité à juger et à voir la réalité telle qu'elle est. C'est ça qui se passe pour notre narrateur ici.
Et c'est ça, à mon avis, la grande force du roman, de la littérature sur le cinéma. C'est un peu comme Denis Lehane, Shutter Island. Moi, quand j'ai lu Shutter Island, et je vais parler en même temps pour American Psycho et dans une moindre mesure pour Les Éclats. Mais quand on lit les livres, on est dans cette ambiguïté un peu perverse, où on est dans la tête et dans la paranoïa du narrateur ou du héros. Et on se demande, on ne sait pas, Shutter Island, jusqu'à la fin, je ne croyais pas que ce n'était pas la réalité qu'on nous présentait. Parce que je rappelle que c'était une sorte d'expérience comme ça d'un malade mental et qui avait voulu fuir sa propre réalité. Et à un moment du récit, on le ramène à sa réalité. Mais quand on lit le livre, on refuse ça. Exactement comme lui, en fait, puisqu'on est dans sa tête. Alors qu'au cinéma, pour Shutter Island et pour American Psycho, il n'y a pas cette ambiguïté. Ou alors, elle est un peu fabriquée, un peu artificielle. C'est beaucoup plus compliqué au cinéma de faire ça.
I also think Shutter Island, the Martin Scorsese film, is about the making of movies.
Alors, bon, pour moi, Shutter Island, c'est un film qui parle de la réalisation de films. Et c'est comme ça que je l'ai toujours regardé. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer comment on crée une scène, comment on crée une intrigue, comment un acteur se présente pour un film. Et pour en revenir à l'adaptation de American Psycho, bon, ma réalisatrice l'a dit, hein, elle a complètement merdé sur la fin. C'est tout simplement une fin qu'on ne peut pas filmer. Le livre, le roman de manière générale, parle de la conscience, parle de style. Et je pense que le médium du film est beaucoup plus littéral. Et c'est pour ça que je pense que c'est absolument impossible de faire une séquence de rêve dans un film. Je trouve d'ailleurs que ça devrait toujours être coupé au montage. Et d'ailleurs, je trouve qu'on ne devrait pas en mettre dans les romans non plus. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ce que je veux dire, c'est que la conscience n'est pas quelque chose qu'on peut adapter en film. Et donc, en gros, ce qu'ils ont fait pour American Psycho et ce qu'on fait toujours dans les adaptations, c'est qu'on a pris les 100 et quelques pages qui sont filmables et on a filmé ça. c'est tout. Et donc la fin, aujourd'hui le public connaît ce film et prend ce film comme un classique, donc ils le prennent tel quel. Mais à l'époque, les gens, quand ils ont vu la fin, se sont dit, enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et la réalisatrice a dit, bon, bah, en fait, j'ai choisi cette fin parce que je voulais que les gens se posent la question. Mais bon, aujourd'hui, Christian Bale a fait beaucoup de bien au film. Et j'ai d'ailleurs appris qu'il était dans les top 10 de TikTok. Donc ça fait du bien au film.
Un point pour la littérature. Au-delà de l'aspect roman noir, on est encore une fois immergé dans cette société extraterrestre où l'argent compte énormément, mais où on ne compte pas l'argent, avec des gamins complètement déconnectés de la réalité et qui ne vivent qu'en pensant aux marques. Et quand vous écrivez, c'est comme ça d'ailleurs qu'on reconnaît vos textes en un seul coup d'œil, le récit est entrecoupé sans arrêt de goûts musicaux. Il y a des centaines de titres de musique, mais aussi de marques de fringues. Et dans ce roman, ce sont les chemises Ralph Lauren notamment. Et à chaque fois qu'on rencontre un personnage, vous nous présentez sa tenue comme dans un catalogue. Et aussi, quand le narrateur se remémore un souvenir, il se souvient, alors que c'était bien, bien des années plus tôt, qu'il portait un jean Calvin Klein. C'est malgré vous, qu'est-ce qui se cache derrière ces descriptions qui sont dans quasiment toute votre œuvre?
Elle est intéressante, cette question, parce que qu'est-ce qui explique l'objet de mon obsession? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance et dans mon adolescence qu'est-ce qui s'est passé et qui m'a influencé ensuite dans mon écriture, de manière générale et plus spécifiquement dans Les Éclats? Alors, dans Les Éclats, on parle de jeunes très riches. Et on se pose la question de savoir si être riche permet à ces jeunes de s'en sortir, même jusqu'à aller au meurtre. Et évidemment, si je pose cette question, c'est parce que depuis toujours, je fais le lien entre la richesse et l'abus. Parce que mon père était très riche et était un père abusif. Donc j'ai toujours fait cette connexion, et cette connexion est toujours présente dans mes romans. Et là, je ne fais pas de spoiler, mais effectivement, dans le roman, on pose la question de ces jeunes riches qui vont s'en sortir, même si un meurtre est commis. Les deux sont connectés parce que mon père était un monstre. Tout le monde est attiré par les jeunes riches et puissants. Moi, j'ai envie de lire des histoires sur des jeunes qui sont riches, qui font des choses extraordinaires. J'ai envie d'écrire ces personnages. Et j'avais véritablement envie de recréer cette ambiance de l'époque, cette ambiance de jeunesse avec des tensions sexuelles absolument incroyables, où effectivement les hormones vont dans tous les sens, où on a envie de coucher avec tout le monde. C'était extrêmement intense. Intense au point que je me souviens encore des vêtements que je portais quand je sortais en soirée, que j'avais l'impression d'être vraiment super beau. Peut-être que je ne l'étais pas, mais en tout cas, je me souviens encore de ces jeans, de ces polos, simplement parce que c'était extrêmement intense. Et puis, bon, j'étais sur le point de devenir adulte. C'était la toute fin de l'adolescence. Il faut savoir aussi que je tenais des journaux intimes où je racontais absolument tout. Tout ce que je faisais, jusqu'à à qui je pensais quand je me masturbais le matin avant de me lever, les morceaux de musique que j'avais entendus dans la journée. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de détails.
Les Éclats, c'est le nouveau roman de Bret Easton Ellis chez Robert Laffont. J'ai envie de parler de ce titre, ce sera dans un instant.
La voix est livre.
Nicolas Caro.
La Voix est livre exceptionnelle cette semaine parce que nous recevons Bret Easton Ellis. Plutôt, c'est lui qui nous reçoit. Nous sommes dans sa suite, dans son hôtel à Paris. Nous sommes venus le voir pour parler des Éclats, son nouveau roman, qui est un peu, chez Robert Laffont, qui est un peu un mix entre Moins que zéro, enfin toutes ces pérégrinations, les lois de l'attraction dans la jeunesse dorée de Hollywood, mais aussi mélangé avec American Psycho, puisqu'il y a un serial killer dans cette histoire aussi. Il y a un côté même un peu Sherlock Holmes, si on veut aller le chercher, et un côté Stephen King. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Mais je voudrais qu'on parle des éclats du titre, The Shards en anglais. En français, c'est un titre merveilleux, puisque ce sont à la fois les éclats de verre, il y en a beaucoup dans le roman, mais aussi c'est les éclats de lumière en français, les éclats dans les yeux, quelque chose d'hyper positif, lumineux. Mais en anglais, sauf erreur, Shards, c'est uniquement un éclat de matière. Il n'y a que l'aspect de destruction. Alors pourquoi ce titre ? Est-ce que c'était dans l'optique de le publier en français ? J'imagine que c'est ça.
Well, you have to understand. Well, I didn't. I really did not know that that was what the title in
Alors,
France meant.
C'est incroyable ça. Depuis le temps qu'on en parle, je ne savais pas que ce titre avait cette résonance en français. Je trouve ça absolument merveilleux. En fait, le titre, je l'ai depuis l'âge de 18 ans. À l'époque, j'adorais Stephen King et moi, je trouvais que ce titre, ça faisait très Stephen King. Ça faisait peur. C'était un titre vraiment percutant. L'idée de bris de verre, l'idée d'avoir des bouts de verre absolument partout. J'avais l'idée d'une dispute très violente entre deux personnages qui allaient se rouler par terre alors qu'il y avait des éclats de verre partout, des fenêtres explosées dans tous les sens. Et j'avais aussi l'idée, qui est d'ailleurs dans le roman, d'un accident de voiture avec un personnage qui traverse le pare-brise et des éclats de verre absolument partout dans son corps et ces éclats qui, petit à petit, deviennent rouges au fur et à mesure que le sang coule. Mais à 18 ans, vraiment, c'était l'idée de l'aspect flippant, l'idée des éclats de verre absolument partout. Mais à 56-57 ans, ce titre a pris un nouveau sens. Et donc, je l'ai gardé. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais j'ai gardé ce titre parce que pour moi, ça voulait aussi parler des brisures du souvenir, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on choisit de se souvenir. L'idée qu'on ne peut pas tout recoller, ses regrets, ses trahisons, les choses qu'on a ratées, et ben tout ça, c'est les brisures de la mémoire. Est-ce que vous avez déjà essayé de recoller des éclats de verre ? C'est absolument impossible. On ne peut pas recoller ce qui s'est passé. Et donc, le sens du titre a évolué pendant ces 40 ans.
Alors, vous me tendez une perche parce que je n'étais pas sûr de pouvoir en parler, mais il se trouve que je suis officiellement le plus grand fan français de Stephen King. Et dans le roman, il est question de Stephen King, puisque c'est l'année où Shining, le roman de Stephen King, est adapté au cinéma. Il se trouve que Stephen King, on le sait aujourd'hui, déteste ce film parce que ça n'a rien à voir. Mais le héros, Brett, dans le livre, en attend beaucoup de ce film, au point qu'il est le premier à 10h du matin à y aller pour voir le film et tout. Et il sera un petit peu déçu. Pas autant que Stephen King l'a été. Mais juste une parenthèse, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez aujourd'hui de Stephen King, qui n'est pas forcément tout de suite placé dans la même catégorie d'écrivains que vous ? Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous l'avez rencontré ? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous pensez de Stephen King aujourd'hui ?
Well, it's odd. I've never met him. I've never met Stephen King. I was at a party with him, but I didn't say hello to him at the party. He was a huge influence
Alors,
on
non,
me as a child.
Alors non, je ne l'ai jamais rencontré étonnamment. Pourtant, je me suis retrouvée à une fête avec lui, mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Alors évidemment, il a eu une influence énorme sur moi. J'adorais ce qu'il écrivait. C'est simple. Quand Carrie est sortie, j'avais 10 ans, je l'ai lu. J'ai adoré. Puis, quand Salem est sorti, j'avais 11 ans, je l'ai lu 5 fois. Dans l'année, j'étais complètement obsédée par ce roman. Et ensuite, évidemment, il y a eu The Shining, obsession absolue, à tel point qu'il fallait absolument que j'aille voir le film. Effectivement, il m'a un petit peu déçue parce qu'il n'aurait jamais pu être aussi énorme que l'était le roman. Et puis surtout, ce roman est absolument essentiel dans les éclats. Essentiel. Parce que le jour où Brett va voir le film, c'est simple, je me souviens encore de la date de sortie. C'était le 24 mai 1980. Je me suis assis dans la salle et j'ai vu un garçon, mais d'une beauté extraordinaire. Et ce garçon a descendu l'allée du cinéma. Puis je l'ai revu remonter l'allée du cinéma. Donc clairement, il cherchait quelqu'un, un ami. Et j'ai commencé à fantasmer, à imaginer des choses sur ce garçon absolument incroyable. Je ne l'ai jamais oublié d'ailleurs. Hein. Je lui ai donné un nom, Robert Mallory. Et puis ensuite, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je le rencontrais ? Qu'est-ce qui se passait s'il venait dans notre école ? Donc, The Shining a une importance absolue hein, dans mon roman. Alors après, je dois dire que j'ai commencé à me désintéresser au roman de Stephen King au moment où il a écrit Pet Sematary ou quand il a écrit Le Talisman avec Peter Straub. Et puis après, je me suis dit, mais enfin bon, est-ce qu'il prenait trop de coke ou je sais pas quoi, mais j'ai commencé à trouver que son écriture dégringolait. Donc j'ai plus ou moins cessé de le lire. Alors je dois dire que le roman qu'il a écrit sur l'assassinat de Kennedy m'a plu. Ça, c'était sympa. Mais j'ai perdu le contact en quelque sorte il y a 25-30 ans. Le dernier vraiment très bon Stephen King que j'ai lu, c'est Christine. C'était dans les années 80, c'était il y a si longtemps.
But Stephen King did give a very good review to Luna
Park. Et ceci étant, il a fait une critique de Luna Park en 2005, extraordinaire. Il a beaucoup aimé mon roman et je me souviens avoir fondu en larmes quand j'ai lu cette critique.
Alors Stephen King, qui a l'habitude de dire qu'on est amis, meilleurs amis, avec un écrivain qu'on aime. Donc je vous annonce que nous sommes très amis, Bret Easton Ellis déjà, mais j'ai un autre grand ami qui s'appelle Scott Fitzgerald. J'en ai parlé la semaine dernière dans l'émission et je disais que vous en étiez un peu l'héritier. Parce que c'est vrai qu'il y a des ressemblances, pas forcément dans le style, mais ce que je veux dire, c'est que Fitzgerald était dans cette société, mais il la regardait d'une manière un peu décalée. Il était à la fois dedans et extérieur, comme son narrateur dans Gatsby, Nick Carraway, qui regarde comme ça tout ce monde s'agiter. Et aussi, il y a un autre truc, c'est qu'il faisait des scénarios pour Hollywood, Fitzgerald, pour vivre, pour gagner sa vie. Mais ça le saoulait d'une grande force. Et je crois que vous, vous en avez fait aussi des scénarios. Et ce n'est pas votre exercice préféré. Et quel est votre rapport à Fitzgerald? Est-ce que je me trompe complètement ou pas? Est-ce que c'est votre ami?
Look, of course he's my friend, and The Great Gatsby is in many ways my favorite of all American novels. I think it is the key American novel.
Évidemment, c'est un grand ami. Je veux dire, Gatsby, le magnifique, c'est le roman américain par essence. C'est le roman qui dit tout ce qu'il y a à savoir sur les États-Unis, exception faite peut-être de Huckleberry Finn. Mais il y a des différences. Moi, je n'avais pas envie de faire partie de cette société de riches. Alors que lui, il me semble que si, il voulait graviter dans cette société, même s'il la regardait d'un peu, avec une certaine distance. Moi, j'ai grandi là-dedans et ça ne m'intéressait pas du tout. L'autre différence, je dirais, c'est le rapport à Hollywood. Moi, j'ai grandi dans cette société. Je connaissais les problèmes. Alors que lui, sa grande erreur, ça a été de penser que s'il écrivait un scénario remarquable comme ses romans, alors que forcément, ça serait réalisé, ça deviendrait un film. Alors que c'est absolument pas comme ça qu'on fait. C'est absolument pas comme ça que ça marche. Et donc, ça a été ça son erreur et son immense regret. Faulkner, lui, savait exactement comment ça marchait. Il rentrait dans le studio, on lui disait, bon, alors donc il faudrait faire quelque chose avec une nana, un meurtre, et puis il faut qu'il y ait une course-poursuite à un moment ou à un autre. Il disait, ok, donnez-moi quatre. Alors quatre quoi? Quatre mois? Mais non, 4 jours. Donc, il avait compris, en fait, hein, que écrire un scénar, c'était pas comme ça qu'on faisait un film. Fitzgerald n'a pas compris que le script et ce qui devient un film ne sont pas les mêmes choses. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, quand on est Fitzgerald et qu'on a écrit le Gatsby le Magnifique, bon, on est un peu le roi dans le domaine. Hein. Et puis bon, pour ce qui est de l'expérience de Hollywood, moi, comme pour beaucoup d'autres, j'ai vécu une expérience atroce, remplie de regrets. J'aurais dû passer ces années à écrire des romans, mais à l'époque, je pensais que ce que j'avais envie de faire, c'était de réaliser un film, de réaliser des mini-séries. Et j'ai fini par démissionner quand j'ai compris que ça ne marcherait pas. J'ajoute que je ne suis pas mort dans un appart délabré à bouffer des sneakers. Je crois que c'est à peu près comme ça qu'a fini Fitzgerald. Et donc, c'est tant mieux comme ça.
I quit the business.
Dernière question, c'est pas de la flagornerie, mais pour beaucoup de gens qui vous aiment ou vous détestent, vous êtes un écrivain qui compte. Vous êtes une sorte d'icône, vous êtes un des rares, très rares écrivains à être reconnu éventuellement dans la rue. On reconnaît aussi votre style, vous avez marqué une époque, vos romans en sont des témoignages d'ailleurs, 40 ans plus tard c'est toujours là, et vous avez eu cette chance tout de suite. C'est-à-dire que vous avez publié votre premier roman et crac, ça a marché tout de suite, vous n'avez pas galéré, vous n'avez pas eu à mendier des aides pour vous consacrer à l'écriture, et pourtant, quand on vous pose ce genre de questions, vous avez l'air de ne pas être tout à fait satisfait de votre parcours. Vous dites « Ah oui, mais non, pas vraiment. En fait, il y a beaucoup de gens qui me détestent. » Alors que vous êtes Bret Easton Ellis. Est-ce que vous auriez voulu que les choses se passent différemment? Et si oui, comment?
Oh, well, you know, I can imagine a life where I was a musician. I wrote songs, I was in bands.
Quand j'étais jeune, je faisais partie d'un groupe. J'adorais la musique et j'aurais adoré devenir musicien. Mais ensuite, mes parents m'ont envoyé à l'université. J'avais déjà écrit deux romans pendant que j'étais au lycée et j'avais commencé à écrire moins que zéro. Donc, c'était écrit quelque part que je deviendrais romancier. Je pensais aussi que le film tiendrait une place importante dans ma vie. Beaucoup d'amis sont partis à Hollywood après l'université et moi, j'étais convaincue qu'au bout de 2 ans à New York, je reviendrais à Los Angeles. Mais je suis tombée amoureuse de l'exercice de l'écriture. Et pendant 20 ans, j'ai écrit non-stop, jamais une pause. J'étais complètement obsédée par mes romans. Je passais de l'un à l'autre, et avec beaucoup de joie, je dois dire. Donc je pense que quelque part, ça devait advenir. Et j'ai aucun regret sur la façon dont s'est déroulé mon parcours. Mais simplement, quand on parle de Bret Easton Ellis, je dois dire que moi, mes problèmes tournent plutôt autour de ma plomberie qui ne fonctionne pas, une tuyauterie rouillée, des murs qu'on m'a défoncés pour essayer de régler ça et ça n'est toujours pas réglé. Un petit ami qui, il y a un an, a eu un souci, enfin il est devenu addict, il a dû aller en centre de désintox, des parents qui vieillissent, des soucis financiers, une sœur qui devrait être internée mais qui ne veut pas, donc des problèmes d'adultes. Si vous voulez, je ne me réveille pas le matin dans mon lit avec une coupe de champagne en me disant « Je suis Bret Easton Ellis, que la vie est belle, je n'enfile pas mes lunettes pour ensuite aller dans la rue, c'est pas comme ça que je vis ma vie. » Après, effectivement, que les gens parlent de moi, qui créent toute cette image, qui est des critiques. Alors d'ailleurs, aux États-Unis, c'est très clivant. Hein. Ça peut être on m'adore, on me déteste, effectivement. Mais moi, ce qui m'obsède, à vrai dire, à l'heure actuelle, c'est mon couloir. Quand est-ce qu'on va refaire mon mur? Voilà. Je sais qu'il y a des messages qui m'attendent sur mon téléphone, il va falloir que j'y réponde. Après, les rumeurs sur ce qu'on dit de moi, c'est assez abstrait. Après, je suis ravie qu'on parle de moi, mais ce que je vis là, à l'heure actuelle, c'est plus de l'ordre du rêve. Ceci étant, je ne dis pas que je n'adore pas. Je suis à Paris, je suis invitée au restaurant, les gens sont absolument merveilleux avec moi, c'est génial. Simplement, moi, je me demande comment est-ce que je vais faire pour rattacher la porte de ma cuisine à ses gonds. Il y a ma voiture qui veut plus démarrer parce que je suis en tournée et quand mon petit ami a essayé de la démarrer, ça ne marchait plus.
Baby, I love you so much. You're so
je rentre sexy. Pas dans ma chambre entre chaque entretien à me frotter contre mon livre en me disant à quel point je suis merveilleux.
Alors là, je dois dire que Bret Easton Ellis a pris mon exemplaire et a embrassé mon exemplaire de son livre. Donc je vais l'encadrer, peut-être le vendre sur eBay, on verra. Et ça donne donc Les éclats chez Robert Laffont. Merci infiniment, Bret Easton Ellis.
Thank you for having me.
Et merci beaucoup à Marie Furtner pour la traduction qui est comme ça, traduire immédiatement. Moi, ça me fascine toujours. Merci infiniment. Retour dans les studios d'Europe. Restez avec nous dans un instant. L'équipe de chroniqueurs nous rejoint pour plein de bonnes idées.
La voix est livre.
Nicolas Caro.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix est libre, avec Sébastien Bordenave pour la bande dessinée, Héloïse Goua, littérature jeunesse, et notre libraire de la semaine, Sandrine Babu, l'immense Sandrine Babu, librairie L'Instant à Paris. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Nicolas.
Et on commence toujours avec la libraire. Sandrine, qu'est-ce que vous avez pour nous? Un livre de poche, tiens.
Un livre de poche qui parle d'un écrivain un petit peu connu. Romain Gary.
On ne connaît pas.
Hein, jamais trop tard pour connaître Romain Gary. Donc là, c'est une...
On avait Bret Easton Ellis tout à l'heure, Romain Gary maintenant, on est classe.
On est pas mal.
On est blindé.
Donc c'est une biographie de Romain Gary par Kervin Speer, qui est français, contrairement à ce que le nom pourrait laisser entendre. Ça, c'est en 2 volumes. Alors ça, c'est en poche, c'était le premier. Le deuxième est paru... Je ne sais pas s'il y en a un troisième ou pas, je n'ai pas encore l'information. Donc là, ce qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'il a eu accès aux archives de la période où Romain Gary était consul de France à Los Angeles pendant 4 ans, donc 1956-1960. On rappelle que la maman de Romain Gary lui avait prédit qu'il serait ambassadeur, donc c'est quand même important d'avoir cette période-là.
Ce qu'il raconte dans La promesse de l'aube.
Exactement, entre autres choses. Magnifique livre. Au passage, quand même... Juste pour citer un livre que je vous conseille aussi sur Romain Gary, c'est le Un certain Monsieur Piccanini de François-Henri Désérable, incontournable aussi. Mais revenons donc à Monsieur Romain Gary, consul général de France. En fait, il va nous raconter comment Romain Gary occupe ce poste de consul. Il est un petit peu iconoclaste par rapport à ses prédécesseurs. Il ne s'entend pas très bien avec ses instances supérieures. C'est en 56, c'est aussi l'année où il a le prix Goncourt pour Les Racines du Ciel, donc son premier prix Goncourt avant celui qu'il aura 56, ouais, en tant qu'Émile Ajar pour
75.
Bravo,
attention, battle. Hein,
ouais. Voilà, donc c'est un Romain Gary, voilà, à qui on pardonne beaucoup, qui s'échappe de son poste pour aller écrire, qui a des conquêtes féminines, qui s'intéresse beaucoup aussi au sort du monde, hein, parce que c'est un écrivain qui n'est pas... Il est auto-centré, mais pas que. Mmh. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'effectivement, l'auteur romance le livre, mais on a vraiment beaucoup de faits réels, tirés d'archives, de conversations. Il a été rencontré des anciens témoins de la vie de Gary, dont sa secrétaire. Donc c'est absolument passionnant. Quand ça se finit, il rencontre Jean Seberg, et là, on attend la suite... Même si on la connaît un peu, on a envie de lire la suite.
Qui est beau et dramatique aussi, cette histoire-là. Héloïse Goy, attendez, on va redire le titre quand même. Monsieur Romain Gary, tout simplement, consul général de France de Kerwin Spear chez Folio. Merci Sandrine. Héloïse Goy.
Oui, moi aussi, je vais vous mettre au défi. Les pourquoi de mes petits-enfants, c'est du collectif Grand Mercredi. Je vous rassure, pas besoin forcément d'être grand-parent hein, pour lire cet ouvrage. Vous pouvez juste être parent, oncle, tante. Si vous avez déjà vu un enfant en vrai, en fait, ce livre est fait pour vous. Parce qu'il vous permettra de ne pas avoir l'air bête face aux centaines de questions plus ou moins improbables qui fourmillent en continu dans les cerveaux des petits.
Pourquoi ?
Là, je vois vos têtes et vos yeux levés. Vous vous dites, non, mais ça va, les questions niveau CP, je crois que je peux assurer. Vous la pétez. Là, on va voir. Je laisse Mathilde, 10 ans et demi, vous poser les questions.
Pourquoi est-ce qu'on est chatouilleux ?
Réponse, je vous écoute.
Parce qu'on a beaucoup de terminaisons nerveuses.
Je suis pas sûre que l'enfant il se satisfasse de cette réponse. Alors, réponse très complète dans ce livre. Le gargélis, sachez que c'est le nom savant des ghillies, est en fait un réflexe de survie qui est plus proche de la panique que du défoulement. Les chatouilles stimulent la partie du cerveau qui gère la peur. Le rire serait donc un moyen de défense entre plaisir et douleur. Vous voyez ce que je veux dire, ce côté où on a envie de partir très très vite. Voilà pour les ghillies. On continue parce que Mathilde a encore d'autres questions à vous poser.
D'où ça vient l'expression « ok » ?
Je t'en pose des questions.
C'est « zéro kill ».
Ah oui.
Alors c'est intéressant.
C'est militaire.
C'est intéressant parce que ça fait partie des hypothèses recensées, le zero kill. Vous savez de quand ça date, Nicolas ?
La Deuxième Guerre mondiale ?
De la guerre de sécession aux États-Unis.
Bah oui, évidemment.
Zero killed,
on
zero okay mort,
avant 45,
OK. Ça, c'est une des hypothèses. L'autre hypothèse,
OK, c'est lui qui a dit.
Vous l'avez. Autre hypothèse, ça pourrait aussi venir du combat de boxe et être l'opposé de KO, knockout. Ah. Parce qu'un boxeur encore sur pied serait à l'inverse OK.
Bravo.
Mais en réalité, la première utilisation recensée de ce mot date de 1839 dans un journal de Boston. Le journaliste, qui faisait partie d'une sorte de loulipo à l'américaine, a transformé l'expression « all correct », donc « tout va bien », en « ok », qui est bien plus court à écrire. Une autre question de Mathilde, qui a vraiment beaucoup de questions à vous poser.
Pourquoi les clowns, ils ont toujours un nez rouge ?
Alors là...
Elles sont dures, hein, ces questions.
Ils sont enrhumés ?
Non, en fait, selon notre livre, cela daterait de 1869 en Allemagne. Un garçon de piste s'est pris les pieds dans le tapis et s'est étalé devant le public en s'écrasant le nez, devenant tout rouge, et c'est resté. Une toute petite dernière pour la route.
Ouais. Oui. Allez.
Pourquoi au rugby, le ballon, il est ovale ?
Ah, mais ça, c'est pas sympa pour moi, les questions sportives.
Parce que c'était une panse de brebis ou un truc comme ça.
Et... Bah, à la base, mais celle l'était aussi quand c'était rond.
On s'est assis dessus, du coup, ça, dans la mêlée.
Non, alors. Non. Est-ce que vous saviez déjà qu'au début de ce sport, le ballon de rugby était rond ?
Ah non.
Bah voilà, on est en 1823 au Royaume-Uni. C'est seulement quelques années plus tard qu'un cordonnier lui donne une forme allongée. En fait, la balle est plus facile à tenir et à plaquer contre son corps pour courir et déjouer les plaquages.
Parfait.
Voilà, vous avez appris plein de choses là.
J'ai retrouvé une citation d'Éric Chevillard à propos du hockey qui serait peut-être le chaos.
Ah.
C'est un aphorisme. Tomber d'accord, chaos, hockey.
Oh, ok, bah c'est. Okay. Voilà, peut-être que ça conviendra à Mathilde comme réponse. Voilà, donc 150 questions-réponses. C'est très utile aux adultes, vous l'aurez vu. Les pourquoi de mes petits-enfants du collectif Grand Mercredi aux éditions First.
Très chouette, merci beaucoup Héloïse. Et c'est à vous Sébastien.
Aujourd'hui, une BD, juste une BD, car c'est la BD événement. Elle est sortie ce mercredi et son titre, c'est un peu comme si Nicolas, vous aviez fait une sieste sur votre clavier d'ordinateur. Elle s'appelle...
C'est très radiophonique comme titre.
BRZRK. K.R. 26 points au Scrabble, j'ai compté. C'est le tome 1, normalement il y en aura 3. Elle fait événement cette BD parce que c'est un nouveau héros BD et que le scénariste n'est autre que l'acteur de Matrix, Keanu Reeves.
Ah ouais ?
D'ailleurs, ce héros, physiquement, regardez, c'est Keanu Reeves, un homme au regard d'aigle, au visage émacié, les cheveux au vent, il m'énerve celui-là. L'histoire commence il y a 80 000 ans, une tribu nomade est bien contrariée, cette tribu nomade, parce qu'elle se fait régulièrement massacrer par une autre tribu nomade. La femme du chef a une idée, aller dans la grotte où se trouve Dieu pour lui demander une arme divine. Elle y va. Et le dieu, eh ben, il va la pécho. Enfin non, pardon, le dieu va lui faire le coup de l'Esprit Saint. Elle est enceinte, elle accouche, le bébé est super fort, puis devient un enfant ultra balèze, puis un ado que rien n'arrête. Homme, il peut détruire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et comme il est immortel, eh ben on va se retrouver dans la narration de la BD aujourd'hui. Le gouvernement américain l'a embauché, tu m'étonnes. Mais ce qui intéresse vraiment, c'est de savoir qui il est vraiment, qui est vraiment son père. Et surtout, comment arrêter d'être immortel, parce que bon, la vie, ça va 5 minutes. Une BD dans la grande tradition des comics américains, très très violente. Un jour, ça va débarquer au cinéma. C'est pas un hasard si cette BD s'appelle Nicolas. Parce que ça évoque un manga assez emblématique du nom de Berserk. Non, Berserk. Alors, ça vous dit peut-être rien, Nicolas.
C'est très violent.
Mais
aussi.
C'est une BD très violente et c'est une BD qui s'est vendue à un manga qui s'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde.
Ah, quand même,
5 millions chez nous en France. Donc, que ce soit pour Berserk ou pour c'est un univers terrifiant d'ultra-violence, mais aussi avec de l'esthétisme. Ah, bah ça va, voilà. Donc, si vous aimez les bisous et les jolies couleurs, il y a les bisounours. Si vous aimez la violence, il y a de Keanu Reeves.
Vous nous réappelez le titre.
C'est BRZRKR.
Parfait. Et vous avez une citation ?
Bien sûr, une citation de Gaston Lagaffe. Il est couvert de pansements à la tête et il dit « Ah, dorénavant, je saurais qu'il ne faut jamais charger une arbalète avec un boomerang.
» Sandrine, vous nous redonnez le titre ?
Alors, Monsieur Romain Gary, consul général de France de Kerwin Spear.
Et Louise Gua.
Les pourquoi de mes petits-enfants chez First.
Merci à tous les trois. Et Sandrine, je rappelle, c'est la librairie L'Instant, rue de Lourmel, dans le 15e arrondissement de Paris. Merci à tous les trois, c'est la fin de cette émission. Merci à Agnès Vaudin, Boris Paczynski et Mathieu Frette pour les coups de main indispensables. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.